Radio Kapi. Midi pile à Kinshasa, 13h à Goma, au Nord Kivu. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Au Nord Kivu, une accalmie relative est observée ce vendredi matin dans la zone de Kibumba, en territoire de Nyiragongo. En revanche, selon plusieurs sources, dans les groupements de Bambo et Bukombo, en territoire de Rutshuru, les hostilités se poursuivent pour un troisième jour consécutif. Contentieux électoral, c'est en principe ce vendredi que la Cour constitutionnelle examine les dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Sur 12 requêtes reçues par le greffe électoral, plusieurs sont contre la CENI et seules les candidatures de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi font objet de contestations. L'invité de ce journal est le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Marc Carnassoro, parle de l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri grâce notamment aux opérations menées par le FRDC avec l'appui des forces de la MONUSCO. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, une accalmie relative est observée ce vendredi matin dans la zone de Kibumba, en territoire de Nyiragongo. C'est après des affrontements toute la matinée d'hier jeudi, selon plusieurs sources dans le groupement de Bambo et Bukombo, en territoire de Rutshuru. En revanche, les hostilités se poursuivent pour un troisième jour consécutif. Tel était avec Bernard Denyangui.
Après ces intenses combats d'hier jeudi, tout paraît calme ce vendredi à Kibumba et Bumba dans le territoire d'Nyiragongo. Plusieurs sources affirment que les belligérants FRDC et groupes armés locaux d'une part, les rebelles du 23 et leurs alliés de l'autre sont en alerte maximum et renforcent leur position. Jusqu'ici, il n'y a pas assez de précision sur qui de ces forces occupe Kibumba après ces intenses combats. Certains groupes armés disent avoir repoussé le 1-23 de cette commune rurale. D'autres sources affirment que Kibumba ne serait occupé par aucune force, mais que les rebelles 1-23 seraient toujours dans les environs. Par ailleurs, des tirs d'armes lourdes retentissent toujours dans le groupement de Bambo et Bukombo, occupé depuis hier par les rebelles du 1-23. Vers 9h locales ce vendredi, un obus est tombé dans un quartier est de Bambo dénommé Majengo, faisant au moins 2 blessés parmi les civils, indiquent certaines sources et la notabilité locale. Ces sources affirment que, dans l'opération de ratissage du centre de Bambo, plusieurs maisons d'habitation et boutiques ont été pillées, 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, alors que toute la partie nord de Bambo s'est vidée de ses habitants. Goma, Bernard Denyangui, Radio Kapi.
OCHA s'inquiète de la situation humanitaire au Nord Kivu. Dans un communiqué signé le 25 octobre dernier, Bruno Lemarquis exprime la profonde préoccupation de la communauté humanitaire face à l'escalade des violences contre les civils. Aucun mot ne peut exprimer notre tristesse face aux vies perdues et à l'immense souffrance endurée depuis plusieurs années par la population affectée, dit-il. J'en appelle à toutes les parties pour assurer la protection des civils et le respect du droit international humanitaire, déclare Bruno Lemarquis. Sifa Maguro pour plus de détails.
Dans ce communiqué d'OCHA, son coordonnateur revient sur les tueries des civils le 23 octobre à Oicha, en territoire des Beni, qui ont fait une vingtaine de personnes tuées et des blessés lors d'une attaque. Cette attaque a également contraint plusieurs milliers de personnes à fuir leurs habitations et a perturbé des opérations humanitaires. 2 véhicules des ONG ont été incendiés par les manifestants en colère, mais aussi 3 camions transportant une assistance humanitaire, ajoute ce communiqué, contraignant de nombreuses organisations à suspendre leurs activités à Oicha. Plus de 140 000 personnes dans les besoins sont ainsi privées d'une aide humanitaire. Des milliers d'autres personnes se retrouvent coupées de l'assistance humanitaire depuis le début du mois d'octobre à la suite des violences armées dans les territoires de Rutshuru et Masisi et provoquées des déplacements de près de 200 000 personnes additionnelles. Bruno Lemarquis exprime ses sincères condoléances et solidarité aux familles des victimes et ajoute que la communauté humanitaire reste mobilisée auprès des populations africaines. affectés. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Au sud Kivu, une attaque armée dans un chantier d'exploitation minière fait 3 morts et 5 blessés graves dans les territoires de Fizi. C'est pour la 3e fois dans l'espace d'un mois que les sites d'exploitation de l'or tenus par les expatriés est attaqué par des bandits en armes non identifiés. L'administrateur des territoires de Fizi en appelle aux services de sécurité de démanteler ces réseaux pour le retour au calme dans ce territoire. Sami Kalonji Badibanga, joint par Emmanuel Elamejo Kabedi.
C'est avec beaucoup de regrets d'amertume que nous vous annonçons pour la 3e fois consécutive que la nuit de ce mercredi au jeudi 26 octobre 2023, vers 1h du matin, dans le groupement de Baskasilo, secteur d'Nkandia, les bandits armés non autrement identifiés munis des armes de marque AK-47 ont fait incursion dans la base des exploitants chinois. Et les éléments commis à la carte de cette concession ont tiré des balles à pour se défendre. Le bilan provisoire se résume de la manière suivante. Il y a eu 2 éléments de la police blessés. Du côté de nos FRDC, 3 éléments sont blessés. Du côté bandits, on a 3 morts et 2 armes AK-47 récupérées. Les éléments FRDC ont récupéré les téléphones sur les cadavres de ces assaillants. Nous profitons aussi de ces micros pour lancer un appel aux autorités sécuritaires provinciales afin de démanteler ces réseaux qui insécurisent et tuent dans notre territoire de Fizi.
C'est ce vendredi que la Cour constitutionnelle amorce l'examen du contentieux des candidatures à l'élection présidentielle. Sur 12 requêtes reçues par le greffe électoral, seules les candidatures de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi font objet de contestation. Les autres requêtes sont déposées contre la CENI. La Cour dispose ainsi de 10 jours à partir de la publication des listes provisoires des candidatures à l'élection présidentielle pour statuer sur les 10 contentieux. Jeff Ngoy pour plus de précisions.
Parmi les requérants, le candidat Seth Kikuni, par l'entremise de son avocat, demande à la Cour d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi pour défaut de qualité. L'ancien candidat du scrutin de 2018 précise que l'actuel président de la République a postulé sous une fausse identité, car différente de celle qu'il avait conduite à la magistrature suprême. À l'élection présidentielle de 2018, il avait postulé et été proclamé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous l'identité de Tshisekedi Tshilombo Félix. Mais à la prochaine présidentielle de décembre, il dépose sa candidature sous une autre identité, à savoir Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, en violation du principe de l'immuabilité du nom consacré en droit congolais, dénonce-t-il. 2 autres requérants, en l'occurrence Junior Tshivwadi et le candidat Noël Tshiani, contestent la candidature de Moïse Katumbi. Le premier appelle la Cour à invalider cette candidature, notamment pour défaut de nationalité, corruption et transfert illégal des minerais vers une autre destination. Le second, initiateur de la proposition de loi sur la nationalité communément appelée de père et de mère, invite également la Cour à rejeter la candidature de Katumbi pour défaut de la nationalité congolaise d'origine.
Et sachez que c'est le 18 novembre prochain qu'est prévue la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, soit un jour avant le début de la campagne électorale. Sous un autre chapitre, le sommet dit des 3 bassins s'est ouvert hier jeudi au Centre international de conférences de Kintele à Brazzaville avec la réunion des experts. C'est avec comme objectif d'enclencher un partenariat stratégique pour permettre au pays de ces 3 grands ensembles de peser dans les négociations internationales sur le climat. À ces défis sur le long terme s'ajoutent les enjeux immédiats comme la restauration et la conservation des forêts tropicales, des tourbières et des mangroves et l'établissement d'un rapport de force capable de peser sur les résolutions de la COP28. Les 3 grands bassins tropicaux du monde, à savoir l'Amazonie, les bassins du Congo et les bassins du Bornéo-Mekong, représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales du monde et les 2/3 de la biodiversité terrestre et assurent en même temps la subsistance d'au moins 1 milliard de personnes. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Au cœur du débat mondial sur le réchauffement climatique, les 3 bassins détiennent donc une bonne partie de la solution. Les 3 jours des travaux sont consacrés aux échanges au niveau des experts le 26 octobre, des ministres le 27 octobre et les chefs d'État le 28 octobre. Avec une superficie de 520 millions d'hectares de forêt, le bassin du Congo offre un potentiel de développement économique et écologique considérable. La prise de parole du président Félix Tshisekedi au sommet des 3 bassins est très attendue lors du sommet des chefs d'État le 28 28 octobre prochain. Il va rappeler au monde que la forêt équatoriale de son pays est le deuxième massif forestier du monde avec ses 155 millions d'hectares de forêt, soit 67% du territoire national, près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% de celles de l'Afrique et environ 60% de celles du bassin du Congo. Elle séquestre quotidiennement près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre, dont les trois quarts sont concentrés sur 43% de la superficie du pays. La RDC entend bénéficier à juste proportion des dividendes de la solution mondiale à la question du réchauffement climatique.
Et puis le député national Jado Mangwengwe a déposé mercredi dernier au bureau de la Chambre basse du Parlement une proposition de loi portant installation d'un guichet unique pour les commerçants en RDC. L'élu de Beni au Nord Kivu explique que par cette proposition de loi, il y a nécessité que toute activité commerciale paye tout ce qui est dû à l'État une fois l'an. Il motive son initiative législative par l'article 35 de la Constitution qui garantit les droits à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers et veille à la sécurité des investissements privés. On écoute les explications de Jado Mangwengwe au micro dans les Irung.
Le souci de notre proposition de loi que nous avons déposée au niveau du Parlement est que toute activité commerciale, quelle que soit sa dimension, grande, moyenne ou petite, soit en train de payer tout ce qui est dû à l'État au niveau d'un seul guichet, une et une seule fois l'an. Certainement que c'est un système qui va faciliter aux Congolais d'entreprendre, mais aussi aux étrangers de venir investir dans notre pays. Vous savez, c'est gênant. Ça devient une menace et ça devient une tracasserie lorsque vous entreprenez. Vous ouvrez une petite activité commerciale et que deux, trois jours après, vous avez en face de vous plus de 40 services qui viennent vous réclamer ce qui est dû à l'État. Plus de 40, 50 invitations. Ça devient gênant. Voilà donc notre souci est que tout ce qui revient à l'État soit en train d'être payé au niveau d'un seul guichet. Ça pourra également permettre à l'État de bien encadrer ses recettes. Tout le petit voleur de l'argent de l'État, ils ne seront plus volés.
En province du Tanganyika, baisse des cas de choléra dans les territoires de Kabalo. D'après la députée Virginie Nkulunemba, élue de Kabalo, qui revient de cette contrée, à la 40e semaine, la zone de santé de Kabalo a enregistré 24 cas et 0 décès, contrairement à la 40e semaine où la zone avait enregistré plus de 90 cas et plusieurs décès. D'après la députée Virginie Nkulunemba, cette baisse s'explique notamment par les médicaments et un train dépêché par le gouvernement provincial du Tanganyika pour la prise en charge des malades. La députée Virginie Nkulu est au micro de Paul Mounanga.
À la 40e semaine, ils étaient à 90 cas et plusieurs décès. Heureusement, il y avait des initiatives localement où il y a eu les pharmaciens, les commerçants, les opérateurs économiques qui se sont cotisés pour quand même faire face à cette situation en urgence. Et ce n'est que le début de la saison de pluie. Que dirions-nous quand il va pleuvoir abondamment? Parce que c'est pendant la saison de pluie et à la proximité des maladies hydriques. Alors, grâce à cette intervention et puis l'intervention du gouvernement provincial, bien que c'est arrivé en retard, nous saluons aussi ça. Il y a eu une nette amélioration. On doit vraiment multiplier les sites d'exploration d'eau pour lutter contre cette épidémie. Et beaucoup de sensibilisation, parce que nous savons tous que le choléra, c'est la maladie de main sale. Et lorsque l'eau est affectée, les gens prennent de l'eau non potable, alors les gens se contaminent facilement. On va plus sensibiliser que les gens se lavent les mains à tout mouvement. C'est le seul moyen où nous pouvons lutter contre les choléra.
Une délégation de parlementaires français a visité hier jeudi les locaux du master en santé publique à la faculté de médecine de l'Université protestante du Congo, UPC. Il s'agit d'un projet de partenariat entre l'Université Paris-Saclay et l'UPC en santé publique en milieu tropical à travers une formation de niveau master. D'après le professeur Bobette Matulonga, responsable académique du master, cette formation qui se donne à double niveau est en quelque sorte une concrétisation de ce qu'elle appelle la promotion de la diplomatie scientifique entre la RDC et la France. Le point avec vous Jacques-Yves Molima.
Il était question pour la délégation des députés français de s'imprégner de cette coopération scientifique entre les deux nations. Arnaud Legal, député du Val d'Oise.
Nous sommes venus voir un modèle de coopération scientifique sur les maladies tropicales, entre autres, pas que, sur l'ensemble de la santé entre la France et la République démocratique du Congo. C'est une coopération qui nous impressionne parce qu'elle fonctionne dans les deux sens. Chacun a à apprendre de l'autre. C'est donc tout ce que nous voulons promouvoir.
Mais à quel point ce projet est profitable pour l'RDC ? Professeur Bobette Matulunga explique.
Ce projet est extrêmement profitable parce qu'on intervient dans 3 secteurs. On intervient dans les soutiens du modèle LMD qui est en train de s'installer en République démocratique du Congo. On intervient également dans les soutiens à la recherche scientifique et innovation technologique. Et en plus, nous formons des chercheurs congolais sur les standards internationaux, notamment sur les modèles français, mais en gardant notre contexte congolais.
Pour les étudiants, cette formation en santé publique tombe à point nommé.
Actuellement, nous assistons à des maladies émergentes et cette formation de master va nous permettre de faire une cartographie et mettre sur pied des stratégies.
Notons que les cours se déroulent dans un premier temps en présentiel avec des professeurs congolais et à distance avec les professeurs français.
Et plus de peur que de mal, toutes les élèves du lycée Mwanga de Kolwezi qui avaient piqué une crise mardi dernier dans leur salle de classe sont bien portantes après un séjour à l'hôpital. Pour un membre du personnel soignant qui a reçu ses patientes et qui a requis l'anonymat, ces filles ont été victimes d'étouffement à cause de la promiscuité dans leur salle. Ces élèves du lycée Mwanga sont délocalisés vers le complexe scolaire Joudi après l'incendie de leur salle de classe au mois d'avril dernier. Des détails avec Jean Gandou.
Les 6 dernières élèves malades ont quitté l'hôpital ce jeudi. Elles font partie des 27 qui sont tombées mardi dernier dans leur salle de classe. D'après plusieurs sources, telle dans un film d'horreur, la première élève est tombée toute seule de son banc à la grande stupéfaction de ses collègues. Pendant que l'enseignant et les autres élèves cherchaient comment la secourir, une autre s'est écroulée, puis une troisième et une quatrième ainsi de suite. D'après le prophète Bonaventure Mokoubou, le même spectacle était aussi vécu dans notre salle de classe, ce qui a créé une véritable psychose dans cette école. Alertées, les autorités provinciales et éducationnelles se sont mobilisées pour que ces élèves soient conduites dans les structures médicales de la place. Parmi ces filles, d'autres ont été directement admises en réanimation. Certaines ont regagné leur famille après avoir été soignées. Plusieurs autres sont restées à l'hôpital et étaient libérées au fur et à mesure que leur état de santé s'améliorait. Contactés, certains habitants de Kolwezi rapportent que les salles de classe de ce complexe scolaire Djoudi ne sont pas suffisamment aérées et il se poserait un problème de promiscuité. En outre, le jour du drame, il faisait très chaud. Ces jeunes élèves seraient simplement victimes de l'étouffement. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Algérie, les droits de grève est soumis à de nouvelles règles considérées comme restrictives par les syndicats autonomes. Les personnels de plusieurs secteurs considérés comme stratégiques n'ont pas le droit de recourir à la grève. Israël, Hamas, 5 personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville égyptienne frontalière d'Israël, en guerre depuis le 7 octobre avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, rapporte des médias et des témoins.
L'invité
de ce journal est le chef de bureau de la MONUSCO à Ituri, Marc Carnassoro, parle de l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, grâce notamment aux opérations menées par les FARDC avec l'appui des forces de la MONUSCO, mais aussi aux différents dialogues communautaires et avec des leaders des groupes armés initiés par la MONUSCO pour accompagner le gouvernement provincial. Marc Carnassoro s'entretient à Bounia avec Isaac Remouyopi.
Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, bonjour.
Bonjour.
D'abord, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province de l'Ituri? Parce qu'on semble constater quand même une certaine accalmie.
Beaucoup d'efforts ont été mis en œuvre au cours des derniers mois écoulés pour essayer de baisser les tensions, pour essayer donc d'amener les acteurs armés à adhérer au processus des DRCS. Parallèlement à cela, il y a eu aussi des opérations militaires qui ont été menées. Donc il y a une combinaison d'efforts et je crois que cela a un impact aujourd'hui sur cette situation que nous voyons en ce moment. Quoi qu'elle soit encore précaire, puisque la majorité de ces groupes-là gardent encore leurs armes, ils les dissimulent encore et donc à tout moment, ils pourraient donc encore faire recours à la violence.
Nous savons que presque tous les groupes armés locaux de l'Ituri ont signé des accords de cessation unilatérale des hostilités. Pendant ce temps, on est dans une situation presque de statico parce qu'ils n'ont pas encore déposé les armes comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui est fait pour accélérer ces processus?
Au niveau de l'approche non militaire, il faut dire que nous avons une stratégie qui s'articule autour de 2 axes principaux. Le premier axe, c'est de travailler avec les communautés à la base, avec les leaders communautaires, pour identifier les vecteurs de tension et ensemble créer les conditions pour qu'ils puissent se parler, pour, si vous voulez, régler ces problèmes-là de manière pacifique. Dans ce sens, la MONUSCO a appuyé le gouvernement provincial et il y a eu une série de rencontres qui ont été matérialisées par des accords d'entente. Il y a eu dernièrement, au mois de juin, l'atelier qui a réuni les responsables des communautés Lessé et Nandé à Komanda et qui a renouvelé l'accord d'Ofai qui avait été aussi facilité par la MONUSCO en 2017 déjà. Il y a aussi eu des discussions qui ont eu lieu du côté des Alour et des Lindou pour essayer d'apaiser les tensions. Il y a eu aussi la facilitation des dialogues intracommunautaires parce qu'à l'intérieur des communautés, on a aussi des pôles de tension. Des pôles de tension qui peuvent s'exacerber et dégénérer facilement. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'engagement à l'endroit des acteurs armés. C'est une démarche de persuasion pour leur expliquer que l'option qu'ils ont, c'est de rejoindre le programme de désarmement et de démobilisation communautaire mis en place par le gouvernement. Dans ce sens aussi, nous avons appuyé le gouvernement en place, le gouvernement provincial en place, et il y a eu des discussions, vous vous souviendrez des discussions de Harou, il y a eu aussi les actes d'engagement qui ont été signés par les groupes armés principaux en Ituri, donc pour ils se sont engagés à arrêter de s'en prendre aux populations civiles et à rejoindre le processus. Depuis le mois de juin 2022, nous avons autour de 22 initiatives de ce type qui ont été entreprises, donc à l'endroit des communautés d'une part et d'autre part à l'endroit des acteurs armés eux-mêmes.
Ça ne semble pas porter des fruits parce qu'il y a même une feuille de route qui était sortie de cette dernière rencontre tenue à Aru, mais cette feuille de route n'est pas suivie jusque là parce que ça devrait aboutir à la création des sites, des démobilisations, les désarmements ainsi de suite. Donc ce processus semble être un peu bloqué.
Je ne pense pas qu'on puisse dire que le processus est bloqué puisqu'il vous vous souviendrez qu'au mois de mai cette année, nous étions à un pic de quasiment 170 personnes tuées par mois. Donc nous avions un pic, une moyenne que nous n'avions jamais atteint avant. Il vous souviendra aussi que le conflit était en train de déborder de Djougou. On avançait du côté de Mahagui. Le littoral était complètement désert aussi. On ne peut pas dire qu'il y a eu un statu quo puisque quand même aujourd'hui on voit qu'on a réussi à baisser l'intensité des activités des groupes armés. Aussi parce que de leur côté, les militaires ont fait un effort identifier les modes opératoires de ces criminels-là et puis anticiper sur leurs actions. Parallèlement à ça, il faut dire qu'on a renforcé les systèmes d'alerte précoce. Aujourd'hui, nous en avons quasiment une quarantaine sur l'ensemble des territoires de Djougou, une partie de Mahagui, une partie de Irumu, qui permettent en temps et en heure d'avoir l'alerte et de réagir à temps. Donc, quand on regarde les données qu'on a aujourd'hui, visiblement, la violence a diminué puisque le nombre de victimes a aussi diminué. On constate aussi que les routes sont ouvertes. On a quand même réussi à les amener à rentrer en hibernation. Mais ils ont les armes. Donc, la grande question, c'est quand est-ce qu'ils vont les ressortir? Et c'est sur ce point que nous insistons pour qu'ils puissent rejoindre le programme de DDR. Le gouvernement travaille sur ce plan.
Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, je vous remercie.
Je vous remercie.
Marc Carnassoro était notre invité. Le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri s'entretenait à Bounia avec Isaac Remoyope. Supervisé par Alain Irung et coordonné par Jacques-Yves Moulima, sous la mise en onde d'Alain Goy, ce journal est à présent terminé. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.